En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul vrai Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Règne maître dans nos cœurs par ta parole. Bénis-la sur les lèvres de ton serviteur. Et bénis cette parole dans ton assemblée. Et Seigneur, qu'à travers toute la ville, ceux qui auront l'occasion de suivre ce message soient touchés dans leur cœur. Au nom de Jésus, avons-nous ainsi prié et tous nous disons Amen. Shalom, shalom. Merci d'être venu sous la pluie. Que Dieu vous bénisse. Et je l'ai dit derrière moi, il y a un visage pâle, mais qui nous est quand même familier. Le docteur Jonathan Berceau est déjà venu prêcher la parole de Dieu ici. Déjà quand on était en face de l'ISTA, sous les hangars, il était là. Et je crois qu'ici, il est venu, il a prêché une fois ici. Et le docteur Jonathan Berceau est un éminent professeur. Il est professeur à la FATAD et à Lomé et au programme de PAF. Il est venu enseigner un cours, le Nouveau Testament, à la FATAD au programme de master. Et nous avons profité de son passage ici pour qu'il arrose le peuple de Dieu. Amen. C'est le moment où les gens dorment. Réveillez ceux qui dorment. Amen. Nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus.
Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour l'invitation. Je réfléchissais, je me souvenais du premier dimanche où j'ai prêché à la bannière. Je me souviens même... Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Est-ce que vous vous souvenez du message? Vous avez déjà oublié? Moi, je m'en souviens. Ce matin, je ne suis pas là pour vous donner un cours de théologie, on n'est pas à la FATAD, mais j'aimerais avec vous regarder un sujet que l'on trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 52. Je me suis arrêté sur un verset et on va construire à partir de ce verset. Marc 6, 52. Et à partir de cela, nous allons nous-mêmes nous poser la question que Jésus avait posée à ses disciples. Marc 6, 52. « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Évidemment, nous devons nous poser la question, et je dois vous poser la question, avez-vous compris le miracle des pains? Je lis ça dans la Bible Semeur. Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. Je lis ça dans la Nouvelle Bible Second. Car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, ils étaient encore obtus. Je lis ça dans la Français courant. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Et la Nouvelle Français courant va un peu plus loin en disant, car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains, ils refusaient de comprendre. Est-ce que vous êtes dans la même situation ? Avant de, pour pouvoir bien comprendre cette phrase, pourquoi est-ce qu'ils ont rien compris au miracle des pains, on est dans un contexte. Et il nous faut évidemment lire le contexte qu'on a ici. Le contexte, on va le commencer à partir du verset 45. C'est Jésus qui marche sur l'eau. Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples. Déjà là, moi, je m'arrête et je dis, comment ça, Jésus doit obliger ses disciples? Il ne dit pas simplement monter dans la barque, mais il doit les forcer. Il doit les obliger. Il ne dit pas simplement, hé, hey, les amis, montez dans la barque, partez. On sent qu'il y a de la résistance. Les disciples ne veulent pas monter dans la barque. Et Jésus doit les obliger. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit l'Évangile, il faut tenir compte que là, on est en train de lire une histoire, mais ce n'est pas juste une histoire. Il s'est passé quelque chose avant. Il s'est passé quelque chose encore avant. Et si on remonte un peu plus haut, quand ils étaient dans une barque et quand ils ont traversé le même lac, il y a eu une tempête. Et il se dit, Jésus, la dernière fois qu'on a traversé ici, ça s'est mal passé. Hein. Il y a eu une tempête, heureusement, tu as calmé la tempête. Mais là, tu veux qu'on aille tout seul? Heureusement, tu étais avec nous la dernière fois. Mais là, on va être tout seul et Jésus les oblige. Jésus dit, vous devez traverser. Alors, il traverse, Jésus renvoie la foule, il monte sur la montagne. Et quand le soir est venu, la barque est au milieu de la mer et Jésus est toujours sur le rivage. Et Jésus voit, verset 48, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Et peut-être il y a quelques disciples, peut-être Pierre, hein, parce que Pierre est celui qui parle un peu plus fort que les autres. Peut-être que vous-même, vous auriez été un petit peu comme ces disciples en disant, « Oh, on n'aurait pas dû venir, regarde, c'est difficile. Regarde, on n'arrive pas à avancer. Il y a du vent, ça va se passer comme la dernière fois, sauf que Jésus n'est même pas là. » Et voilà qu'ils sont en train de ramer, le vent est contraire, c'est la quatrième veille de la nuit, et Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Comme si Jésus là est en train de marcher en disant, bon, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Si Jésus passe à côté de vous, est-ce que vous, comme les disciples, vous allez croire aussi que c'est un fantôme? Si Jésus est là dans le miraculeux, le surnaturel, l'extraordinaire, Jésus est en train de marcher sur l'eau, ça c'est pas ordinaire. Jésus est en train de marcher sur la mer, le vent est contraire, ça c'est pas ordinaire. Mais voilà que eux, leur premier réflexe, c'est pas de dire Alléluia, c'est pas de dire c'est formidable. Notre maître est capable de marcher sur l'eau. Il est plus fort que les éléments. Voilà qu'il croit que c'est un fantôme. Il croit plus au fantôme qu'à la puissance de Jésus. Il croit plus au, peut-être dans un contexte ici, on dira à la sorcellerie, au fétichisme. Il croit tout de suite, là, ils ont un réflexe. C'est un fantôme. Et il pousse des cris. Quand on pense aux disciples, on a l'habitude de penser à des gens sérieux, là, des gens sages, des gens bénis, des gens heureux, des gens intelligents. Mais on les voit rarement ici en train de pousser des cris de peur. Ils contrôlent rien, là. Ils poussent des cris, car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. » N'ayez pas peur. J'ouvre une parenthèse, peut-être pour les étudiants de la Fatat, où il dit, rassurez-vous, c'est moi, littéralement en grec, eimi, je suis. Rassurez-vous, je suis. Comprenez, rassurez-vous, je suis le je suis. C'est moi, le je suis. N'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et là, nous, On peut être comme les disciples, stupéfaits, remplis d'étonnement et perplexes, en disant, c'est quoi le rapport entre Jésus qui marche sur l'eau et l'affaire des pains? C'est quoi le rapport? Ils ont peur, ils croient que c'est un fantôme, parce qu'ils n'ont pas compris l'affaire des pains? C'est ce que le texte dit ici. Ils étaient stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ils n'ont pas compris, en fait, qui est Jésus. Un peu plus tôt dans Marc, j'y faisais allusion tout à l'heure. Ici, on est dans Marc 6, mais si on va dans Marc 4, c'est à peu près la même histoire. En tout cas, ça commence pareil. Le même jour, sur le soir, Jésus dit, on va de l'autre côté. Il renvoie la foule, la même chose. Ils embarquent, ils sont avec Jésus dans la barque. Et voilà que tout à coup, il y a un grand tourbillon. Marc 4, 37. Les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. 38. Lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est quand la dernière fois que vous avez prié en disant, Seigneur, pourquoi tu t'inquiètes pas? Heureusement que notre Dieu ne s'inquiète pas. Mais les disciples ici reprochent à Jésus de ne pas s'inquiéter. Jésus, pourquoi tu t'inquiètes pas? Et voilà qu'il prophétise. Nous allons tous mourir. Est-ce que c'est une bonne prophétie, ça? Est-ce que la prophétie est vraie? En tout cas, dans la fin du récit, on voit que cette prophétie est fausse. Quand ils disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de mourir? Alors, premièrement, Jésus ne s'inquiète pas. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas en train de mourir. Il dit, mais on va tous mourir. Mais personne ne va mourir. Et vous savez, quand on est dans un temps difficile, dans un temps de tempête, dans un temps où tout vient contre nous, où on a l'impression, là, on ne contrôle plus rien. Et comprenez que parmi les disciples, bon, il y en avait, ils contrôlaient absolument rien parce que ils avaient plus l'habitude de faire les comptes. Hein, si vous prenez Matthieu, bon, c'était plus quelqu'un qui avait l'habitude de faire de la comptabilité. Si vous en prenez un autre, il était... Mais il y en avait dans le lot qui avaient grandi sur la mer de Galilée. Ils avaient passé leur enfance, leur adolescence à pêcher, à traverser ce lac et puis à être au milieu du lac jour après jour et après jour. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de traverser la mer de Galilée, mais c'est la première fois qu'ils passent par une telle tempête. Ce qui nous montre que cette tempête ici est extraordinaire. Et voilà qu'ils sont en panique, qu'ils ont peur, et qui se disent tous les uns aux autres, y compris les plus expérimentés en pêche, nous allons tous mourir. Et je suis quasiment sûr que dans le lot, il y en a beaucoup, si ce n'est pas tous, qui ne savent pas nager. Imaginez-vous sur une barque, en pleine tempête, on va mourir. Jésus se réveille, il menace le vent et dit à la non, fait des reproches à ses disciples, au verset 40, et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et Jésus fait un rapport ici entre la peur et le manque de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il faut croire. Quand tu ne crois pas, tu as peur. Mais si on met la phrase à l'envers, quand tu crois, tu n'as pas peur. Tu es confiant. D'ailleurs, dans le mot confiance, il y a la foi. Hein, dans la racine latine du mot confiance, il y a la fidélité, il y a la foi qui est là. Comment n'avez-vous point de foi? Bon, nous on lit ça aujourd'hui d'une manière moderne et on dit oui, il devrait avoir un peu plus de foi. Mais croire quoi au juste? Parce que là, Jésus leur reproche de ne pas avoir la foi. Qu'est-ce qu'ils auraient... Mettre la foi en quoi? La foi de quoi ici? Qu'est-ce qu'ils auraient dû croire qu'ils n'ont pas cru? Ils auraient dû croire simplement dans la parole que Jésus avait dite au début de cette histoire. Passons sur l'autre bord. Jésus avait dit, on doit aller de l'autre côté. Je crois, Jésus a dit que je vais de l'autre côté. Même s'il y a une tempête qui vient, je n'ai pas peur, parce que je sais que je vais de l'autre côté. Parce que Jésus m'a dit, passons sur l'autre bord. Et là encore, au verset 41, ils sont saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On est à peu près dans le même récit où la conclusion, c'est qu'ils sont, ici ils sont dans la frayeur, dans le texte de Marc 6, ils sont perplexes, dans l'étonnement, et ils se posent la question, quel est donc celui-ci? Dans Marc 4, ça nous surprend, parce que nous des fois, on jalouse un peu les disciples, et on se dit, mais on aurait voulu être là. Est-ce que quelqu'un aurait voulu être parmi les douze? Être là quand Jésus guérit tel aveugle, être là quand Jésus purifie ce lépreux, être là quand Jésus dit « lève-toi et marche », quand il dit « Lazare, sors », être là quand Jésus multiplie les pains, on va en parler, être là quand Jésus marche sur l'eau et on se dit « mais moi, si j'avais été là, si j'avais vu tout ça, si j'avais entendu de mes oreilles les discours de Jésus, si j'avais vu sa compassion en œuvre et en action », mais ma foi, elle serait extraordinaire, non? Et les disciples, eux, eh bien, ils se disent, c'est qui lui? Ils comprennent pas qui est Jésus. Quel est donc celui-ci? Quand ils voient que quand Jésus parle, même le vent et la mer obéissent, ils se disent, mais Jésus n'est pas celui que l'on pensait qu'il était. Il est plus grand que ce qu'on croyait. Est-ce que ça se pourrait, ah ça c'est du québécois, pardon, est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, il y en ait parmi nous qui croient dans un Jésus qui est moins grand que ce qu'il est vraiment? Et qui, comme les disciples, vont peut-être arriver à un point, ils vont dire, mais qui est donc ce Jésus qui peut faire plus que ce que je pensais? Il est capable de bien plus que ce que vous êtes capable de penser et d'imaginer. Il est plus grand que ce que vous avez compris. Il est au-delà des limites qu'on a fixées. Et il ne faut pas faire comme les disciples ici qui ont limité Jésus. Pour eux, Jésus, il était bon, il pouvait faire de grandes choses, il pouvait faire des miracles, mais quand même, calmer une tempête, c'est pas possible ça. Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je reviens dans Marc 6 à notre histoire de Jésus qui a marché sur l'eau et qu'ils ont eu peur car ils n'avaient pas compris. Et je lis ça cette fois-ci dans la traduction Parole vivante qui rend les choses plus explicites. Car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Leur cœur reste endurci. Quand on lit cette phrase dans Marc 6, 52, ils n'ont pas compris le miracle des pains. Évidemment, nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Ce qu'il y a à comprendre, c'est pas les pains. C'est pas la multiplication. Ce qu'il y a à comprendre, c'est qui est le Jésus qui a fait ce miracle. Et de la même manière, aujourd'hui, nos yeux ne doivent pas être portés sur le miraculeux, sur le surnaturel, sur le sensationnel, mais sur celui qui fait le miracle. Alors, revenons à cette histoire des pains, le miracle des pains. Marc 6, 30. Donc, juste avant que Jésus marche sur l'eau, on a l'histoire des pains. Marc 6, 30. On va aller vite là-dessus. Les apôtres sont auprès de Jésus. Ils racontent tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Je souligne ici quelques détails. Vous savez, il y en a qui pensent que le ministère, que le service, c'est quelque chose de facile. Là, les disciples, ils sont fatigués. Et Jésus le sait. Et Jésus le voit. Et Jésus dit aux disciples, on va aller à part. On va aller dans un lieu désert. Un lieu désert, par définition, c'est un lieu où il n'y a personne. On va être tranquille, juste entre nous. On va dans un lieu désert pour vous reposer un peu. Et Marc nous précise que les disciples, il y avait tellement de monde qui venait, qui passait, tellement de choses à faire, que les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Ce qui est assez ironique d'une certaine manière. Parce que eux, ils n'ont même pas le temps de manger, et voilà qu'ils vont devoir donner à manger aux autres. Quand ils partent dans la barque pour aller dans un lieu désert, alors ils partent dans la barque, ils disent « on va aller là-bas, on sera tranquille ». Il nous est dit au verset 33 que beaucoup de gens ont vu où ils allaient, et comme la mer de Galilée, bon, on appelle ça la mer de Galilée, mais c'est un grand lac, hein. Quand on est sur le bord de, quand on est à Capernaum, par exemple, et qu'on regarde la mer de Galilée, on voit de l'autre côté, et on sait qu'on peut traverser en bateau, ça va prendre quelques heures, bon, avec un bateau à moteur, mais pour eux, ça va prendre un peu plus longtemps, et puis on arrive de l'autre côté. Mais la foule ici va faire le tour du rivage à pied. Et quand les disciples arrivent dans le lieu désert, il y a une foule. Imaginez les disciples là qui étaient fatigués, qui disent « Enfin, c'est nos vacances. On arrive dans les lieux de vacances pour se reposer un peu. » Et voilà que quand ils arrivent dans le lieu de vacances, la foule est là. Le travail est là. Et Seigneur, on est venu pour se reposer et voilà qu'il y a la foule qui est là. Et quand Jésus voit cette grande foule, verset 34, il fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Notez bien que la réaction des disciples aurait été certainement, allez Seigneur, renvoie-les là. Bon, ou dis-leur une petite parole vite fait et puis après, on est venu ici pour se reposer. On est venu ici pour être tranquille. Mais Jésus leur enseigne pas une chose. Jésus leur enseigne beaucoup de choses. C'est ce que le dit le texte. Et les disciples ont dit, bon, il a fini la première parabole, on va être tranquille. Encore une autre. Mais Jésus, t'as pas dit, et il continue, et c'est long. Et l'heure est déjà avancée. Alors, comme l'heure est déjà avancée, les disciples viennent et disent, écoute Jésus, le lieu est désert, l'heure est avancée, c'est le temps de les renvoyer. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Et Jésus leur dit, non, non, c'est vous qui travaillez aujourd'hui, mais on est venu se reposer. C'est souvent ça le ministère, hein, quand on croit qu'on doit se reposer, le Seigneur dit, non, non, tu as quelque chose à faire encore. Donnez-leur vous-même à manger. Et il leur dit, mais où est-ce qu'on va acheter l'argent là? On n'a pas... On a juste 200 deniers, comment on va leur donner à manger? Et Jésus leur dit, mais combien vous avez de pain? Ils vont voir, et là on est dans la version de Marc, et il répond, on a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, bon, c'est bien. Il leur commande de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il s'assoit par rangée de 100 et rangée de 50. On voit que c'est bien organisé, et on sait comme ça combien il y a de personnes. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis rompit les pains. Ici, il y a quelque chose de très théologique. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui aiment étudier la Bible. Il rendit grâce, c'est le verbe en grec « eucharisteo », qui a donné le mot « eucharistie », la communion, la Sainte Cène. Voilà qu'il rend grâce et il rompt les pains. Après avoir rendu grâce, il rompit les pains. On a quelque chose de très eucharistique dans cette phrase-là. Et il y a quelque part une image prophétique. Mais je fais ma parenthèse. Il donne aux disciples, les disciples distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ce détail-là, c'est important. Parce que ce détail-là nous montre que Jésus prend soin de ses disciples. Parce que quelqu'un aurait pu dire, mais quand même, c'est quoi ce maître qui dit à ses disciples, viens, on va se reposer. Et au lieu de se reposer, voilà qu'il y a une foule et qu'ils doivent travailler, et ils n'ont toujours pas mangé. Il y avait tellement de monde qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Et ils pouvaient dire, on a juste 5 pains et 2 poissons pour 13, 12 plus Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire avec 5 pains et 2 poissons? On va faire un tout petit repas. Mais voilà que quand ils obéissent à ce que Jésus leur dit, quand ils font ce que Jésus leur dit, quand le miracle prend place, à la fin, il reste 12 paniers pleins, un chacun. À la fin, les disciples ont un panier chacun, plein de nourriture. Et là, Jésus, certes, les a amenés à travailler un peu plus, mais à la fin, ils sont récompensés. Et quand on met les intérêts du royaume de Dieu avant, quand on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste nous est donné par-dessus. Mais c'est premièrement, je fais ce que Dieu me demande. Donc le miracle des pains ici nous montre qui est Jésus. C'est pas une histoire de dire, bon, Jésus est capable de multiplier le pain. Non, ça nous montre qu'il est puissant, que sa parole est très puissante, qu'en bénissant ses pains, il rendit grâce. Eh bien, il y a quelque chose de surnaturel avec une multiplication surnaturelle. Et c'est ça que les disciples n'ont pas compris. Marc 6, 52, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Comprendre qui est Jésus. Je fais le parallèle avec une autre histoire qu'on trouve dans Luc chapitre 17. Cette histoire-là, c'est une histoire de 10 lépreux. Il y avait dans un village 10 lépreux, nous dit Luc 17, 12, 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus et qui disent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Quelqu'un dira « Mais je ne comprends pas cette histoire-là ». Les lépreux viennent en disant « Jésus, aie pitié de nous ». Et la première parole que Jésus leur donne, c'est « Allez ailleurs ». Allez vers les sacrificateurs. Ce n'est pas que Jésus est en train de les renvoyer ici. Évidemment, nous, on est au XXIe siècle et on est un petit peu décalé par rapport au contexte de cette histoire-là. Mais pour les gens qui vivent en Israël en ce temps-là, ils connaissent la loi de Moïse et ils savent que quand quelqu'un est lépreux, ils savent aussi que c'est le sacrificateur qui va attester de sa lèpre. Mais ils savent aussi que quand quelqu'un qui était lépreux n'a plus la lèpre, il doit aller voir le sacrificateur qui va attester de sa guérison et seulement après, ils pourront retourner dans leur maison, dans leur famille, parce que tant qu'ils sont lépreux, ils doivent se tenir à l'écart. Donc si je paraphrase, les 10 sont en train de dire à Jésus « Aie pitié de nous » et Jésus est en train de leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur, comment vous avez été guéri, afin qu'ils attestent votre guérison. » Mais comprenez qu'ils sont toujours lépreux. Et c'est ça la foi. Et souvent, Jésus nous demande un pas de foi. Je suis toujours lépreux, mais tu me demandes d'aller voir le spécialiste pour qu'il me dise que je ne suis plus lépreux. Mais Jésus regarde, je suis toujours lépreux. Mais Jésus dit, va. Alors ils vont. Et pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils y vont, parce qu'ils croient dans la parole de Jésus, ils se mettent en action, ils mettent en pratique, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et ils arrivent et ils peuvent montrer au sacrificateur qui atteste ils sont guéris. Et le verset 15 nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et je disais cette semaine aux étudiants de la FATAV, quelque part, celui-là, c'est le rebelle, non? Parce que Jésus a dit, allez au sacrificateur, et lui, il n'y va pas. Il fait demi-tour. Jésus dit, allez voir les sacrificateurs qui attestent votre guérison, Et lui, il dit, non, non, je suis guéri, je ne vais plus voir le sacrificateur, je vais voir Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il a compris le miracle. Les 9 ont été guéris, les 9 autres ont vu qu'ils étaient guéris, ont compris que Jésus les avait guéris, mais c'est resté là. Mais celui-ci a compris le sens de ce miracle. Il a compris qui était Jésus au travers de ce miracle. Il a compris que Jésus était plus grand que les sacrificateurs. Et que aller voir les sacrificateurs, c'était pas nécessaire. Jésus est plus grand. Et c'est à Jésus que je veux venir rendre grâce, rendre gloire. C'est un Samaritain, mais lui, il a compris le miracle. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ta foi t'a sauvé. Les autres, leur foi les ont guéris. Mais lui, sa foi l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a compris qui était Jésus. Avez-vous compris le miracle des pains? Avez-vous compris qui est Jésus? Un seul lépreux a compris le miracle. Quand il vient rendre gloire à Dieu et qu'il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, il a compris, parce que en tombant sur sa face aux pieds de Jésus, vous savez, on est en Israël ici. Et la loi de Moïse dit qu'on se prosterne devant personne si ce n'est devant Dieu. Mais quand celui-ci vient et qu'il se prosterne, qu'il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, c'est qu'il a compris que Jésus est Dieu. C'est qu'il a compris qui est Jésus. Je reviens à Marc 6, 52 et on arrive tranquillement vers la conclusion. Marc 6, 52, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ça, c'est Marc 6. Et ce qui est frustrant, c'est d'arriver à Marc 8 où il se passe une autre multiplication. Est-ce que vous avez noté que dans l'évangile, il y a 2 multiplications des pains? Et là, on est dans Marc 8. Et je fais la version simplifiée. Marc 8, verset 4. Les disciples disent, mais comment est-ce qu'on pourrait les rassasier de pain dans un lieu désert? Même contexte, même histoire. Jésus dit, combien vous avez de pain? Ils disent, on a 7 pains. Bon, un peu plus que la dernière fois. Il fait asseoir la foule par terre, il prend les 7 pains. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Donc même principe, il fait la même chose ici. Il donne à ses disciples pour les distribuer, ils distribuèrent à la foule, il lava encore quelques petits poissons, Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Et voilà que là, une autre multiplication prend place. Et quand on lit dans Marc chapitre 8, verset 8, « Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. » Dans la première histoire de multiplication, on insiste sur le fait que chacun des disciples a eu sa part, et bien plus que ce qu'il avait eu, que ce qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas donné à Jésus ce qu'ils avaient. Mais ils ont donné tout à Jésus, on n'a que 5 pains et 2 poissons, mais on donne tout à Jésus, et à la fin, on a beaucoup plus. Et là, c'est le même principe qui est là, on emporta 7 corbeilles. Au départ, ils avaient 7 pains, à la fin, ils ont 7 corbeilles. Vous savez, quand on met les intérêts de Dieu en premier, quand on donne pour le royaume de Dieu, quand on dit « Seigneur, j'ai juste ça, et avec 7 pains, je ne peux pas faire grand-chose. » Mais lui, avec 7 pains, il peut nourrir 4000 hommes. Nous, avec 7 pains, on va essayer de nourrir combien de personnes? Combien de personnes vont être rassasiées avec 7 pains? Mais quand ce que l'on a, et comprenez qu'ici, on peut aller d'une manière symbolique et de dire, bon, c'est nos ressources financières, mais c'est aussi notre temps, c'est les talents que nous avons, c'est ce que nous sommes. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, si on essaye par nous-mêmes, on aura un petit impact. Et on ne va pas rejoindre un grand nombre. Mais si ce que l'on a, on les met entre les mains de Jésus, et que Jésus les bénit, il rendit grâce, Eucharistéo, que Jésus les bénit, qu'il les brise et qu'il les multiplie, alors le peu que l'on a fait beaucoup, parce que c'est entre les mains de Jésus. Et alors, dans ce deuxième miracle, il mange, on emporte 7 corbeilles pleines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là où ça vient me frustrer. Je suis donc juste après cette histoire dans Marc 8, hein, Marc 8, 9, il les renvoie, Marc 8, 13. Il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. On voit que ça fait plusieurs fois qu'ils traversent ce lac. Hein. Donc là, une nouvelle fois, ils traversent sur l'autre bord. Verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Attendez, Jésus a multiplié. Toute la foule a mangé. Il reste 7 paniers pleins de pain et eux, ils ont juste un seul pain. Les disciples vont dire, on n'a pas grand-chose Seigneur, on a juste un pain. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait des 7 paniers pleins que le Seigneur a laissé ici pour toi? Et voilà que eux, ils ont oublié les pains. Et du coup, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et les disciples, verset 16, raisonnent entre eux et se disent, Jésus nous dit ça parce qu'on n'a pas de pain. Et Jésus leur dit, mais pourquoi est-ce que vous réfléchissez comme ça? Sur le fait que vous n'avez pas de pain. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Et, vous savez, Jésus a dit ça à ses disciples. Mais l'Évangile l'a écrit pour que nous l'entendions. Et pour que la question, peut-être, nous soit posée à nous, en tout cas ce matin, c'est là où l'Esprit nous conduit. Est-ce que certains se disent, je sens que ça me parle, quand le Seigneur dit, es-tu encore sans intelligence? Est-ce que tu comprends toujours pas? Comprenez-vous pas? Verset 18, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Des oreilles, n'entendez-vous pas? Et Jésus dit, et n'avez-vous point de mémoire? Et il est là le problème. N'avez-vous point de mémoire? Et voilà ce que Jésus dit au verset 20. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12. Verset 20. Quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et Jésus dit, ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore que ce n'est pas le nombre de pains qui compte? Il suffit d'avoir Jésus. Tu dis, mais on n'a plus qu'un seul pain. On a oublié, Jésus nous reproche. Mais celui qui multiplie les pains est là. Si tu as un seul pain, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais quand on est bloqué juste sur le matériel, sur le miracle, ne comprends-tu pas encore? Vous savez, il y en a qui viennent à l'église pour avoir des pains. Il y en a qui viennent à l'église pour le surnaturel. Et on voit ça dans l'Évangile, qu'après la multiplication des pains, il y en a qui ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils se disent « Ah, là on mange ». Et on vient à l'église pour avoir une bénédiction. On vient à l'église pour être béni. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas qui est celui qui bénit? Il ne faut pas venir à l'église pour être béni. Il faut venir à l'église pour rendre gloire à celui qui bénit. À celui qui est grand, qui est puissant, qui est fort. Et ne comprenez-vous pas encore. Matthieu 13, 19, je conclue avec cela, les musiciens peuvent s'approcher. Matthieu 13, 19, c'est la parabole des semences, et j'insiste juste sur quelques mots. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Notez bien les mots ici. Quand le malin vient et qu'il enlève, c'est parce qu'il y a eu une action avant. C'est un homme qui écoute la parole, mais ne la comprend pas. Et c'est important pour nous ce matin de comprendre. De pas seulement comprendre que Jésus fait des miracles, mais de comprendre qui est Jésus. Dans Matthieu 13, 23, donc on est toujours dans cette même parabole, et Jésus nous dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de comprendre. Et parce qu'il la comprend, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Jésus fait des reproches à ses disciples parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. N'avez-vous point de mémoire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été guéris dans ce lieu? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été bénis? Qui peuvent dire, j'étais dans une situation difficile, mais le Seigneur est intervenu. Et après, les années passent et on se retrouve dans une autre situation et on dit, Jésus, pourquoi tu fais rien? Hey, n'as-tu point de mémoire? Tu as oublié ce qu'il a déjà fait? Et on dit, mais Seigneur, n'as-tu point de mémoire? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Arrête déjà de dire des choses qui sont fausses. Tu vas pas périr. Les disciples n'allaient pas périr, mais ils disent, nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas, le Seigneur ne t'inquiète pas. Et ce matin, nous voulons comprendre. Et nous voulons dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux, ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures et que nous ne soyons pas de ceux qui nous intéressent au pain, mais de ceux qui s'intéressent à celui qui multiplie les pains. Qu'on ne vienne pas pour la bénédiction que Jésus peut nous donner, pour le miracle, pour l'intervention miraculeuse, et peut-être certains sont venus dans ce lieu avec des besoins, mais nous voulons dire premièrement Jésus, je viens pour toi. C'est toi qui m'intéresse. Parce que j'ai compris que celui qui fait des grandes choses, il est grand, digne de louange et d'adoration. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence dans ce lieu. Nous te disons merci pour ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, que ta parole rentre par une oreille et qu'elle ressorte de l'autre. Mais nous voulons, Seigneur, comprendre, assimiler. Nous voulons comprendre qui tu es. Nous voulons voir ta gloire. Nous disons, Seigneur, montre-nous ta gloire. Nous voulons encore réaliser, ne pas être de ces disciples qui disent, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Nous voulons pas être comme de ces disciples qui n'ont pas compris bien tu étais grand, fort et puissant. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons limité, où nous avons douté, où nous avons eu peur, où nous avons cru que tu n'étais pas capable et que tu ne pourrais pas intervenir dans telle ou telle situation. Nous voulons ce matin dire, Seigneur, je comprends, je me souviens de ta grandeur, de tes bienfaits. Et ce matin, je crois simplement le Dieu que tout est possible à celui qui croit, que tu es le Dieu surnaturel, le Dieu du miraculeux, le Dieu qui multiplie quand il bénit. Et nous disons que ton nom seul soit glorifié ce matin encore. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons prier encore. Peut-être que tu as déjà oublié que Dieu a fait pour toi. parce que tu es face à une situation difficile. C'est facile d'oublier, ne rien comprendre. Tu vois la mort alors que Jésus est la vie. Tu veux que Jésus s'inquiète parce que toi tu t'inquiètes. Tu as besoin qu'on prie pour toi spécialement. Parce que toi-même tu connais les besoins. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever? On va prier pour toi.
Le peuple devant toi, Seigneur, nous sommes là. Prends-nous en charge, cher Saint-Esprit. Prends-nous en charge, afin que les doutes tombent, l'ignorance tombe, l'incrédulité tombe. Combien de fois, Seigneur, nous resterons toujours dans les doutes, alors que toi, tu es certain, rien n'échappe à ton contrôle et à ta puissance. Merci pour cette parole et pour le peuple que tu guéris. Bénis ton serviteur qui nous vient de loin pour nous déposer cette onction ce matin.
Alléluia.
Qu'il soit béni et que ta famille aussi, Seigneur, le soit. Parce que tu es le Dieu qui prend en charge tes serviteurs. Merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.
Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous prions pour les dîmes et les offrandes.
Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Prière de baisser nos têtes.